9h-10h, AVS avec Philippe Robichon.
Maître Serran vous salue, auditeur, auditrice, ravi de vous retrouver pour une petite heure qui va tenter d'allier le droit et l'humour. Bon, pour le droit, d'accord, puisque c'est moi qui m'en occupe, mais l'humour, mon cher Philippe, que vous êtes censé incarner. Oh là, ça marche pas fort, franchement, vous êtes pas toujours drôle, en fait. Alors, je vous aime beaucoup, hein, mais je me demande si je vais pas continuer l'émission tout seul, si ça vous dérange pas. Condition, je veux toucher le même salaire que vous, vous l'aurez bien compris. Alors évidemment, je plaisante, que ferais-je sans vous? Je sais, je vous dois tout, et souvent, il revient à ma mémoire des souvenirs familiers. Alors version Rachida, évidemment, la Lahmoé. Oui, souvent, les cheveux dans le vent, je me remémore la première fois où nous nous sommes rencontrés. Et ce jour-là, je me suis dit, mais qui est cet homme des cavernes? Comme quoi, on peut toujours finir par se lier d'amitié avec un grizzly. Allez, je suis tellement bien avec vous qu'aujourd'hui, l'émission va durer 2 heures. On fait 2 heures. Abdel Ali, si tu nous écoutes et si tu es sur la route pour venir à la radio, fais demi-tour. Aujourd'hui, pas d'émission à connotation religieuse. On va faire du droit, on va parler slibar, on va rigoler pendant 2 heures. Alors non pas qu'avec Abdel Ali, on ne rigole pas, mais on peut moins parler de, vous voyez ce que je veux dire, mon cher Philippe, hein. L'émission ne s'y prête pas. Par exemple, dans l'émission d'Abdel Ali, le mot nibar est prohibé. Pas dans l'émission de Maître Serran. Ouais, je rigole, mais franchement, j'ai pas la tête au nibar. Valérie Giscard d'Estaing nous a quitté, rubrique nécrologique de la semaine. Décidément, pas une semaine sans qu'une personne qui a marqué ma jeunesse ne s'éteigne. C'est pas un bon signe. C'est le signe du temps qui passe. Maître Serran serait-il en train de vieillir? Giscard nous a quitté à cause du Covid, paraît-il. Bon, en même temps, 94 ans, même sans le Covid. Là, vous remarquerez, mon cher Philippe, que je dis le Covid et pas la Covid. Hein. Ouais. Non, j'y arrive pas, moi, avec le féminin, ça colle pas. Je disais donc, à 94 ans, c'est un âge correct pour saluer son public. Faut croire, en tout cas, qu'il faut clamser dans ce pays pour que les gens finissent par t'apprécier, te trouver de grandes qualités de chef d'État, un visionnaire selon certains, trop en avance sur son temps selon d'autres. Et pourtant, ce que l'on va retenir pendant des siècles sur Giscard, c'est le au revoir. Ce qu'on va retenir également de Giscard, c'est son départ de l'Élysée à pied pour aller rejoindre sa voiture et les gens qui sifflent cet ancien président, pas très respectueux. Le peuple est parfois ingrat. Et aujourd'hui, on lui trouve toutes les qualités. Alors, mon cher Philippe, si vous voulez me faire des compliments et disserter sur toutes mes qualités, faites-moi plaisir. Faites-le de mon vivant. Et pendant que vous commencez à préparer un petit texte faisant l'éloge de Maître Serran, je vais inviter nos auditeurs à appeler le 01 53 48 3000 pour poser leurs questions. Émission sous le contrôle de Monsieur Philippe Robichon, qui fut un intime de Giscard d'Estaing. À vous, maestro.
Alors, j'étais pas intime, mais je l'ai bien connu. Il n'était pas président quand je l'ai connu quand même, je l'ai connu après.
Mais vous êtes mon Léon Zitron, c'est-à-dire que je crois que vous avez connu tout le monde et je trouve ça extraordinaire.
Non. Il revient à
ma voilà. Voilà.
Des souvenirs
voilà. Là, quand on est aux manettes, les grandes qualités, c'est ça. C'est de réagir en fonction de ce que dit celui qui est en train de professer. Merci Nico.
Bien, c'est vrai, le président Giscard d'Estaing nous a quittés.
Bah oui.
Ouais, c'était un grand homme. Enfin, il était très intelligent.
Bah oui, c'est vrai. Alors bon, le peuple a été un peu ingrat avec lui quand même, quoi.
Bah, quand on est au pouvoir, on est toujours ingrat.
Oui, c'est ça.
Et après, on sait pas que la suite, ça peut être pire. C'est-à-dire qu'on juge par rapport à ce qu'on voit.
C'est exactement ça.
Mais ça peut être pire ensuite.
Ouais. Hein. Ah ouais. Et c'est le cas d'ailleurs. Mais c'est vrai que le peuple est ingrat.
Ça, c'est fait. Comme ça, Macron, si vous écoute. Là, c'est fait. Mais ça tombe bien, parce qu'on va parler du Conseil constitutionnel aujourd'hui, qui vient donc de perdre un membre de droit, puisque le président Giscard d'Estaing était le dernier président de la République à siéger au Conseil constitutionnel. Puisque François Hollande et Sarkozy n'y siègent pas, de mémoire.
Non. Alors je crois que Sarkozy a fait un saut vite fait, et puis ça n'a pas été plus loin, donc c'est vrai que c'était le dernier à avoir siégé, on va dire, entre guillemets, à plein temps, puisque Jacques Chirac n'est plus, et c'est, entre guillemets, le privilège des chefs d'État. Il faut savoir que ce fameux Conseil constitutionnel, donc qui résulte de la Ve République, hein, donc avec la Constitution de la Ve République, hein, d'octobre 1958, donc c'est un organisme qui est là pour s'assurer et vérifier que les textes de loi qui sont votés sont conformes évidemment à la Constitution. Est-ce qu'ils respectent tous les principes de la Constitution? Alors initialement, c'est le chef de l'État, le Premier ministre, le président de l'Assemblée nationale, le président du Sénat, donc qui avait le pouvoir de saisir le Conseil constitutionnel. Ensuite, il y a eu des évolutions parce qu'après, on a rajouté la possibilité pour 60 députés ou 60 sénateurs de saisir également le Conseil constitutionnel. Et la dernière réforme est probablement la plus intéressante puisqu'elle impacte directement les citoyens. C'est la possibilité. Et on nous avait posé la question
la semaine dernière. C'est pour ça qu'on avait décidé d'en parler puisqu'on nous demandait si une loi était constitutionnelle.
Ce qu'on appelle la QPC, la question prioritaire de constitutionnalité. Donc c'est une réforme qui est importante parce que c'est vrai, dire que le chef de l'État, le Premier ministre ou 60 députés, 60 sénateurs peuvent saisir le Conseil constitutionnel, c'est une bonne chose, mais voilà, on a l'impression que tout ça est un peu perché, que le citoyen qui est directement impacté, évidemment, par toutes ces lois, est un peu écarté de la chose. Donc ça, c'est intéressant, parce que dans le cadre d'un procès que vous pouvez avoir, alors, quelle que soit la juridiction, une juridiction civile, une juridiction administrative, vous avez la possibilité, donc, d'interroger, alors, dans un premier temps, soit la Cour de cassation, soit le Conseil d'État, en fonction de la juridiction administrative ou judiciaire que vous saisissez, et donc de poser la question à ces institutions et de leur demander de soumettre cette question au Conseil constitutionnel, à savoir, est-ce qu'une disposition sur la base de laquelle on me poursuit à l'heure actuelle, est-ce que cette disposition est conforme ou pas aux lois de la République et notamment à la Constitution. Donc c'est un grand pas. C'est vrai que quand on n'est pas juriste, on s'en rend pas forcément compte. Mais quel est l'intérêt ? L'intérêt, c'est que on peut soumettre des vieilles lois avant la création du Conseil constitutionnel et avant la Ve République, la Constitution de la Ve République, et se poser la question à si ces lois sont aujourd'hui conformes à des dispositions, on va dire, plus actuelles. Et le Conseil constitutionnel se prononce là-dessus, et quand il considère qu'une disposition, encore une fois, sur un plan juridique, n'est pas conforme à la Constitution, eh bien le texte de loi est écarté à la demande du Conseil constitutionnel, et ou alors le Conseil constitutionnel peut demander à ce qu'il y ait, comme dirait, une modification ou une rectification de cette loi. Mais c'est, encore une fois, c'est d'abord, ça rapproche le citoyen lambda de ces institutions, et ça permet donc une application plus claire, plus nette des textes de loi, encore une fois, conformes à cette fameuse Constitution.
Alors, qui peut poser une QPC ? Tout le monde ?
Peut poser une QPC celui ou celle qui est concerné par un procès.
Ah oui, sinon, s'il n'y a pas de procès, il n'y a pas de...
Non, comme ça, spontanément, vous ne pouvez pas dire... Tiens,
par exemple, il y a une loi qui vient de passer à l'Assemblée nationale, je trouve qu'elle est inconstitutionnelle, on ne peut pas saisir.
Non, pas au niveau du particulier. Là, on en revient à ce que j'ai indiqué, c'est-à-dire sur un plan institutionnel, encore une fois, le président, Premier ministre, président du Sénat, de l'Assemblée nationale, les 60 députés, 60 sénateurs, donc eux peuvent poser la question avant que la loi soit promulguée. Maintenant, si une loi est votée, et puis vous n'êtes pas, c'est-à-dire, directement concerné dans le cas d'un procès qui vous touche d'abord personnellement, vous ne pouvez pas, en qualité de citoyen, dire, attendez, peut-être que cette loi est ou serait constitutionnelle ou inconstitutionnelle. Non, c'est dans le cadre d'un procès. Vous avez un procès, encore une fois, soit sur l'aspect civil ou administratif de la situation. Vous êtes devant une juridiction, et puis si vous considérez que le texte sur lequel moi j'ai décidé de vous poursuivre, ou moi, ministère le procureur de la République, j'ai décidé de vous poursuivre, vous avez le droit de vous interroger, de dire, mais est-ce que cette disposition qui me sanctionne, on va mettre des guillemets, est-ce que cette disposition est vraiment conforme au texte de loi, est vraiment conforme, encore une fois, à cette colonne vertébrale qui est la Constitution de 1958, et donc vous allez interroger. Alors d'abord, la question, vous la posez au président qui est là dans le cadre de la juridiction administrative ou de la juridiction pénale. Il la transmet au Conseil d'État ou à la Cour de cassation, lesquels transmettent cette question au Conseil constitutionnel. Et puis le Conseil constitutionnel, lorsqu'il rend sa décision, il faut savoir que cette décision va s'imposer ensuite à toute l'institution. C'est-à-dire que si demain le Conseil constitutionnel rectifie ou supprime une loi ou un article de loi ou un alinéa de telle ou telle loi, la question se reposera plus demain ou après-demain. D'ailleurs, on a parfois des procès où vous avez des personnes qui posent la question à la juridiction et on leur dit mais le Conseil constitutionnel a déjà répondu à cette question. Donc le Conseil constitutionnel va pas se prononcer deux fois sur une même disposition qui viendrait de deux citoyens différents ou de deux procès différents. Mais une fois que la décision est prise, elle devient définitive. Ça permet aussi de balayer un peu nos textes de loi, donc de les rendre un peu plus lisibles à l'époque contemporaine. Donc c'est quand même une bonne chose que d'avoir permis cette QPC donc aux uns et aux autres.
Est-ce qu'on sait depuis l'application de cette nouvelle procédure si beaucoup de demandes ont été faites ou pas?
Oui, alors je vais pas vous donner
par an, on sait s'il y en a beaucoup.
Mais alors écoute, hier j'étais sur le site du Conseil constitutionnel, comme quoi je travaille quand même mes dossiers, et j'ai été particulièrement surpris parce qu'il y a plein de questions prioritaires de constitutionnalité qui sont posées au Conseil constitutionnel sans qu'évidemment le citoyen lambda, mais même moi juriste comme dirait l'autre à plein temps, on n'est pas informé, c'est-à-dire qu'il faut aller regarder les choses, et c'est surprenant parce qu'effectivement le Conseil constitutionnel est saisi assez souvent. Pardon de pas vous donner.
On a l'impression que c'est des gens qui ne travaillent pas, qui ne font rien.
On est entièrement d'accord. C'est sûr que quand vous regardez ça comme ça un peu de loin, on a l'impression que c'est un poste où on se foule pas beaucoup. Mais moi, avocat, j'ai été particulièrement surpris en allant sur le site et vous constatez qu'effectivement très régulièrement le Conseil constitutionnel est saisi de ces demandes. Et je vous dis, c'est une bonne chose parce que ça permet vraiment encore une fois, de dépoussiérer cette fameuse constitution, et puis on a beaucoup d'hommes politiques qui le disent, hein, constitution qu'on aimerait balayer pour passer justement à cette fameuse 6e République, mais c'est une avancée importante pour les droits des uns et des autres, et il faut vraiment préserver ça. Encore une fois, ça permet aux citoyens d'être un acteur direct de la chose et pas de se voir imposer des textes venus d'en haut sans trop comprendre pourquoi. Donc ça permet aux citoyens de participer justement donc à ce droit qui s'applique au quotidien aux uns et aux autres.
Mais est-ce que tous les membres du Conseil constitutionnel sont des juristes?
Non,
il n'y a pas besoin.
Il n'y a pas besoin d'être juriste. C'est-à-dire, encore une fois, vous avez des membres qui sont choisis par le chef de l'État, par le président du Sénat, par le président de l'Assemblée nationale. Ce sont des fonctions pour lesquels vous êtes en place pour 9 ans, qui sont pas, alors c'est 9 ans non renouvelables, hein, ça permet justement d'avoir une indépendance absolue. Donc tous les 3 ans, ces 3 personnages, président de la République, Assemblée nationale et Sénat, donc tous les 3 ans, ils vont désigner un membre, et donc c'est un choix qui se fait de manière, je vais dire, discrétionnaire. Alors il y a une petite réforme pour dire que des commissions de l'Assemblée nationale et du Sénat pouvaient éventuellement donner leur avis pour voir si, entre guillemets, le choix fait par les uns et les autres pouvait être confirmé. Bon, il s'agit d'avis consultatifs. En règle générale, quand on demande la désignation de X ou de Y, voilà, il est choisi. Mais il n'y a pas besoin d'avoir un passé de juriste absolu, d'ancien magistrat ou autre. Maintenant, évidemment, on choisit pas des tocards. En tout cas, on évite et on prend des gens qui sont habitués à cette 5e République et aux institutions.
On a 2 anciens premiers ministres hein, au Conseil constitutionnel, puisque le président actuel, c'est Laurent Fabius.
Laurent Fabius.
Et Alain Juppé a rejoint le Conseil.
Il n'y a pas si longtemps que ça. Et en règle générale, on finit par trouver. C'est ça qui est un peu fou. C'est-à-dire que quand ces gens-là sont au pouvoir, ils sont insupportables. Et puis quand ils quittent le pouvoir, ils sont dans ce type d'institution. Ils ont une sorte de sagesse comme ça, et on finit par
sages.
Non, mais c'est exactement ça. Ça a été pareil pour Jacques Toubon quand il était défenseur des droits. Donc, bon, comme dirait l'autre, il était un peu, là encore, tout est relatif, insupportable. Et puis, une fois que vous passez cette barre-là, vous finissez par être même super sympathique et défenseur des droits absolus. Bon, c'est quand même une bonne chose. Alors, on s'assagit, c'est vrai.
Maître Serran est sage et il répondra à vos questions dans un instant. Vous l'interrogez au 01 53 48 3000, 01 53 48 3000.
AVS revient dans un instant. Beurre FM, 9h, 10h, AVS, avec Philippe Robichon.
Alors, on parlait tout à l'heure de la gratuité des questions que vous pouvez poser à Maître Serran au standard de Beurre FM le vendredi entre 9h et 10h. Donc, profitez-en, 01 53 48 3000. Si vous ne souhaitez pas vous exprimer à l'antenne ou exposer votre situation à l'antenne, vous pouvez également l'appeler sur son téléphone portable.
Ça peut arriver, alors pas tout de suite, évidemment. Attendez la fin de l'émission. Hein. Oui. 06 62 58 59 64 06 62 58 59 64.
Je crois que l'imam Abdelali, quand même, fait les deux. Il arrive à répondre aux questions des auditeurs au standard et sur son téléphone portable.
Oui, c'est vrai. Ouais, mais il a même deux téléphones.
C'est ce qu'on appelle la stéréo.
Ah ouais, exactement. Ouais.
Alors, on accueille Mounira qui est avec nous. Mounira, bienvenue.
Oui, bonjour.
Bonjour Mounira.
Je vous appelle parce que j'ai un souci, évidemment. Et j'ai été placée en maladie professionnelle par plusieurs médecins suite à un harcèlement moral qui a duré plusieurs années. Validé par le médecin du travail. Et dans le cadre de l'enquête qui a été faite, il y a un PV établi par la CPAM de l'heure où je travaille et qui est plein de mensonges. Donc, la question est quelle est la procédure à suivre pour annuler un PV ? Pour l'annuler et surtout d'enlever ce qui me salit dedans. Et j'ai les éléments de preuve qui disent que tout ce qui est dit est faux, notamment une gifle que j'aurais giflé une collègue, et la collègue m'a fait un démenti. Et ça m'a...
Si vous considérez que ce qui a été déclaré ou écrit est totalement faux... Il y a rien qui vous interdit, j'allais presque dire, de transformer cette procédure qui, pour l'instant, est civile, puisque vous êtes en litige avec un employeur, mais qui peut se transformer en procédure pénale à partir du moment où vous déposez une plainte, évidemment, hein, pour ce qu'on peut appeler aussi une dénonciation calomnieuse. Mais vous avez bien compris, c'est-à-dire que à charge pour vous d'apporter toutes les preuves, et éventuellement cette personne concernant cette gifle qui pourrait venir témoigner. Faut avant d'engager ce type de procédure, assurez-vous quand même du soutien des personnes qui, avant d'engager quoi que ce soit, vous disent mais si tu fais une procédure, je suis prêt à te soutenir, à témoigner en ta faveur et autres. Parfois, entre le discours qui est tenu et la réalité des choses, il y a une marge. Donc, il faut quand même vous blinder là-dessus et vous assurer du sérieux du témoignage ou de l'aide que ces personnes peuvent vous apporter. Mais si vous avez affaire à des personnes sérieuses et à des personnes qui vous disent tout simplement « mais ce qui est déclaré est totalement faux », ben, banco, bien évidemment, ce sont des éléments qui iront en votre faveur et qui permettent de démonter aussi un dossier qui, comme ça, a priori, peut sembler bien ficelé.
C'est-à-dire, la personne, elle m'a fait un démenti par écrit, joignant sa carte d'identité, ouais, et disant que ce démenti est valable aussi pour la justice.
Eh ben, exactement. Alors, il y a des formulaires qu'on peut trouver sur Internet qui sont complets, avec un article particulier qui laisse entendre que si la personne fait un faux témoignage, elle s'expose à des sanctions pénales. Donc, vous pouvez télécharger ça. Et puis, effectivement, il faut la pièce d'identité recto verso de l'intéressé. Et si, madame, cette personne, effectivement, va dans votre sens en disant « mais ce qui est déclaré est totalement faux », eh ben, vous avez matière à vous retourner, évidemment, contre telle ou telle institution ou tel rapport, évidemment, et heureusement.
Eh ben, le problème, c'est que on nous prend un peu en otage, parce que si on engage des procédures contre l'employeur ou les personnes qui ont témoigné au sein de l'institution de manière totalement fallacieuse, il y a des représailles après.
Évidemment, ce serait pas sérieux. On n'est pas dans le meilleur des mondes. Ce serait pas sérieux de ma part de dire, et puisque souvent la question nous est posée par des salariés, de dire ouais, mais si je me retourne contre l'employeur ou contre X ou Y, évidemment, il y aura des représailles. C'est la nature humaine. C'est sûr que si vous essayez de tacler votre employeur, il va être sur le qui-vive pour essayer de chercher la moindre faille, et puis quand il n'y a pas de faille, éventuellement d'en créer. Maintenant, on est entièrement d'accord. Maintenant, il faut aussi faire confiance à l'institution judiciaire, c'est-à-dire que les magistrats sont pas fous, sont pas dupes. Il est certain que si vous plaignez à juste raison d'un responsable de société et que curieusement votre vie devient un enfer le lendemain ou le surlendemain, au niveau chronologique, tout magistrat normalement constitué fera le lien direct. Donc très souvent les sociétés font ça dans la super subtilité, c'est-à-dire qu'ils sont pas fous au point de jouer l'éléphant dans un magasin de porcelaine, c'est-à-dire qu'ils peuvent vous embêter, distiller des ce genre de choses, mais de manière entre guillemets très intelligente. Maintenant, je le redis, les magistrats sont pas fous, sont pas dupes. Si on vous cherche des poux dans la tête au lendemain de votre plainte ou de vos critiques, ils en tireront aussi des conséquences. Mais il faut toujours être hyper prudent.
C'est que j'ai déjà fait ça, dans le sens où je travaille dans le public, milieu hospitalier. J'ai porté plainte parce qu'on faisait des choses dans mon dos et les patients qui dépendaient de mon travail ont risqué d'avoir des problèmes. C'était pour me toucher moi. J'ai porté plainte pour harcèlement moral.
Oui.
Et le TGI de Évreux m'a répondu que il a classé l'affaire pour discrimination, alors que j'ai porté plainte pour harcèlement moral.
Vous avez bien compris, c'est-à-dire que, alors, pour que les auditeurs comprennent, on va déposer une plainte auprès d'un commissariat, d'une gendarmerie, peu importe, la plainte est communiquée au procureur de la République, et c'est le procureur de la République qui dit je poursuis ou je poursuis pas. La déception, parfois, arrive quand le procureur de la République, pour une raison X ou Y, dit, je classe sans suite. J'imagine que dans le courrier que vous avez reçu du procureur de la République, on vous précise que vous pouvez contester cette décision. C'est-à-dire que vous pouvez aller au-delà du procureur de la République et dire, on a classé ma plainte sans suite. Moi, je considère que ma plainte est légitime. Est-ce que ça, vous l'avez fait ou pas?
Oui, je l'ai fait.
D'accord. Bon, et pour l'instant, au niveau du procureur général, c'est-à-dire au-dessus du procureur de la République, il n'y a pas eu de, vous n'avez pas eu de réponse encore?
Non, je l'ai fait récemment.
D'accord, bon.
Il faut lui laisser le temps.
Ouais, non, mais complètement, complètement. Alors, c'est vrai que ce sont des procédures longues.
Oui, ce sont des procédures longues. Et puis, il y a une chose qui me chiffonne là-dedans, c'est je ne comprends pas qu'on puisse déposer plainte pour harcèlement moral caractérisé, qu'on vous réponde qu'il n'y a pas de preuves, assez de preuves de discrimination. Vous en pensez quoi ?
C'est vrai qu'on vous répond pas sur la même qualification juridique. Donc c'est quand même assez surprenant de dire j'aimerais qu'on étudie mon dossier sous tel angle, et on vous répond que l'autre angle que vous avez même pas demandé à prendre en considération, que sous cet autre angle votre dossier tient pas la route. Dans le cadre de votre recours, justement, ce sont de ces éléments-là qu'il faut éventuellement mettre en avant en disant j'ai une qualification juridique. Alors après, même si c'est la bonne qualification juridique pour vous, un procureur de la République peut dire, écoutez, madame, pour des raisons X ou Y, selon moi, ça tient pas la route. Mais vous répondre, entre guillemets, à côté, oui, c'est à minima embêtant. Mais si vous me dites que vous avez contesté cette décision du procureur de la République, c'est cet aspect-là qu'il faudra mettre en avant.
Ça y est, ça, c'est fait.
Bon, donc maintenant, il faut attendre la réponse.
D'accord. Et donc, pour annuler le PV, je n'ai pas d'autre choix que de porter plainte.
Ah oui, enfin, je vois pas d'autre option, parce que la finalité, c'est quoi? C'est dire que tout ça est un mensonge fomenté par la partie adverse. Donc oui, pour annuler ce PV, encore faut-il que vous ayez une décision de justice sous le coude qui vient tout simplement vous donner raison et puis mettre un coup de gourdin sur la tête de la partie adverse.
Parce que ça, qui ne dit rien consent. Et ça peut rester dans mon dossier.
C'est normal, madame. Enfin, voilà, vous l'avez parfaitement dit. Si je ne dis rien, c'est que j'accepte. Donc c'est vrai que on a parfois, alors quelle que soit la nature de la procédure, on a des gens qui nous disent oui, j'avais une décision qui était fausse, qui n'allait pas dans mon sens. Je savais pertinemment que c'était pas sérieux, mais pour des raisons diverses et variées, je l'ai pas contesté. Quand on ne conteste pas en temps et en heure, au bout d'un moment, quand on se réveille en disant « Non, mais attendez, ce procès-verbal, à l'époque, j'étais pas d'accord », on vous dira « Ok, mais vous l'avez contesté ?»« Non, je l'ai pas contesté. » Il n'y a pas d'excuse. Donc, vous avez raison. Il n'y a pas d'autre choix. Vous n'êtes pas d'accord, faut le contester. Vous contestez pas, c'est que vous l'acceptez.
Donc, vous avez pris la bonne initiative. Pour annuler ce PV, il faut que j'aille porter plainte.
Si vous considérez, encore une fois, que ce PV... n'est pas le reflet de la réalité, oui, il n'y a pas d'autre option.
D'accord,
ce serait un mensonge. Ouais, donc si quelqu'un ment et que le mensonge a des conséquences, oui, il faut aller déposer plainte.
Ok, je vais à la police et je dis que c'est complètement faux.
Voilà, Mounira, ce que pouvait...
Le problème, c'est que on peut nous faire des représailles de grande ampleur.
Après, madame, on peut aussi ne rien faire, rester dans son lit, se couvrir. J'entends bien, vous voyez, je le redis souvent, si vous traversez, il y a aussi un risque d'être renversé par une voiture, pour autant, vous traversez la route, et moi aussi. Donc, oui, forcément, je le redis, on n'est pas dans le meilleur des mondes. Après, c'est un choix. Alors, soit vous dites, je vais tout subir, surtout pas de représailles, soit vous levez la tête et on se comporte, entre guillemets, comme un lion, et puis, si vous considérez que c'est injuste, quitte à recevoir des coups. J'en ai conscience, c'est pénible et c'est parfois douloureux, mais quitte à recevoir des coups, si vous considérez que vous êtes dans vos droits, faut le faire. Et puis, vous pouvez aussi vous faire assister par un juriste, par un avocat. Il y a aussi des avocats gratuits dans les mairies et autres. Donc, on n'est pas dépourvu d'aide quand on le demande.
Comportez-vous comme une lionne, Mounira. Moi, c'est un conseil que je vous donne.
C'est très dur parce que. On est affaibli par le harcèlement qui dure depuis des années. En plus, on reçoit un PV qui est plein de diffamation.
Mounira, faites comme vous dit Maître Serrane. Il faut retrouver votre tempérament de lionne, surtout si des gens ont menti et qu'ils ont attaqué votre intégrité.
On peut perdre leur poste de travail.
Mounira, on arrive à la fin, mais en tout cas, vous pouvez appeler Maître Serrane après l'émission.
Bien sûr, si nécessaire, n'hésitez pas, il n'y a pas de problème.
Au numéro qu'il rappellera tout à l'heure, 01 53 48 3000. C'est le numéro du standard de Beurre FM. Vous nous appelez au 01 53 48 3000.
AVS revient dans un instant. Beurre FM, 9h, 10h, AVS avec Philippe Robichon.
Et surtout Maître Serrane qui est là le vendredi. Maître Serrane a acheté son sapin. Vous êtes nombreux à vous demander s'il a enfin son sapin.
Absolument.
Donc ça s'est fait.
Ouais.
Pour la modique somme de...
Faut le dire.
Ouais.
Pour 114 euros.
C'est cher.
Ah, c'est super cher.
C'est un sapin en or.
Non, c'est pas un sapin en or. J'ai récupéré hier. Alors je me suis fait un peu chier, j'ai fait l'arbre qui part au bled, parce que j'ai une toute petite voiture, donc j'ai mis une couverture sur le toit de la voiture, un sapin et des tendeurs. On peut pas faire plus arabe que ça.
Et un masque.
Obligé. Voilà. Mais oui, j'adore les sapins, c'est comme ça, quoi.
Alors on va à Grenoble, Maître Serrane. Il y a beaucoup de sapins à Grenoble, d'ailleurs. Yacine est avec nous. Yacine, bienvenue.
Bonjour à tous.
Bonjour Yacine.
Bonjour Yacine.
Voilà, j'ai une question d'ordre juridique forcément, c'est concernant ma belle-mère qui est née en France en 1955. Elle est partie à sa majorité aux alentours des 19 ans en Algérie parce qu'elle s'est mariée, et puis bon, elle est partie en Algérie vivre. Et donc au moment de son départ en Algérie, elle avait fait une carte de résidence à l'époque. Et on me demandait, me semble-t-il, de faire un choix entre la nationalité française et algérienne. Donc, elle avait opté passe pour la nationalité algérienne. Et donc, suite à ça, donc elle a perdu sa carte résidence et puis elle est restée, elle a fait sa vie en Algérie, elle a eu des enfants et puis voilà. Donc dernièrement, son mari est décédé en Algérie. Et donc, j'aimerais savoir, juste avant ça, elle venait par la suite avec un visa touristique, visiter sa famille en France, et je suis marié avec une de ses filles en France. Donc, elle a trois filles en France, et deux filles en Algérie, et un garçon. Donc, elle venait parfois rendre visite à sa famille sur Lyon, à travers un visa touristique. Et maintenant que son mari est décédé il y a à peu près trois semaines, j'aimerais savoir quelle démarche elle pourrait faire pour demander sa nationalité française. Est-ce que c'est dans le domaine du possible ou pas?
Alors c'est toujours difficile de donner le sens de la réponse qui sera apportée par l'administration. Sur le principe, il n'y a rien évidemment qui interdirait de solliciter un certificat de nationalité française, et comme elle vit à l'étranger, donc ce sera auprès du service du tribunal judiciaire de Paris, donc il y a une compétence exclusive pour toutes les personnes qui vivent à l'étranger. Et à partir de là, ce service, alors s'il dit oui, banco, et la décision est envoyée au consulat français, on lui remettra une pièce d'identité. S'il dit non, il devra en justifier. Mais je crois que vous avez déjà répondu à la question, c'est-à-dire qu'à un moment, on lui a demandé de faire un choix. Voilà, donc l'administration française étant organisée depuis que le monde est monde, la probabilité pour qu'ils mettent la main sur la réponse apportée à l'époque par votre belle-mère est assez forte. Donc on pourrait lui dire, mais madame, on vous a posé la question, vous avez répondu, et à l'époque vous avez opté pour la nationalité algérienne. Donc il pourrait mettre ça en avant, et puis s'il met ça en avant, c'est imparable. Maintenant, il n'y a rien qui interdirait, en dehors de cette histoire de nationalité, il n'y a rien qui interdirait si un ou des enfants de madame sont de nationalité française, éventuellement demander un titre pour venir en qualité d'ascendant de personne de nationalité française, mais elle aura un titre, elle n'aura pas la nationalité française.
D'accord, parce qu'il y a une de ses filles, ces trois filles qui sont en France, donc elles sont toutes nées en Algérie, et donc elles sont venues, elles ont un titre de séjour, une carte de séjour, notamment ma femme. Et il y a une de ses filles, qui a fait sa demande de naturalisation, elle a pu obtenir sa naturalisation.
Dans ce cas-là, faudrait éventuellement baser la demande de votre belle-mère sur la nationalité de cette fille-là, tout en indiquant évidemment que elle a d'autres enfants, mariés, installés sur le territoire français. C'est-à-dire, en gros, il faut apporter la démonstration aux autorités françaises que il n'y a plus rien entre guillemets qui la retient en Algérie, et que désormais tous ses centres d'intérêt, donc par rapport à ses enfants, sont sur le territoire français. Donc c'est plutôt cet aspect-là qu'il faudrait mettre en avant.
Parce que ses frères et sœurs qui sont sur Rojiva, donc ils ont plutôt, eux, opté pour la nationalité française à l'époque. Ouais. Au moment où elle est partie en Algérie, elle avait, je crois, 19 ans, donc elle était très très jeune. Et puis voilà. Donc,
alors souvent c'est invoqué ça, et souvent j'ai des personnes qui me disent, mais à l'époque je savais pas d'abord, et puis j'étais trop jeune, j'étais mineur, enfin voilà, j'avais pas de d'avis à donner, enfin voilà, c'est papa ou maman qui décidait, c'est comme ça et pas autrement.
Ce qui est vrai,
mais c'est vrai que quand quelqu'un évoque ça, c'est pour dire, écoutez, j'en avais pas conscience, mais maintenant que j'en ai conscience, est-ce que je peux revenir là-dessus? Non, on fait du droit, c'est-à-dire qu'à partir du moment où vous êtes mineur et que là où les décisions sont prises par vos parents, ça peut ensuite sembler injuste quelques années après. Mais les décisions prises par les parents, même si vous prenez conscience qu'elles vont pas dans votre sens X années après, sont des décisions qui s'imposent. Donc c'est un argument qui n'est pas, recevable. Donc si elle a renoncé à sa nationalité, on peut pas dire, écoutez, j'ai renoncé, mais maintenant, compte tenu des circonstances, ou je savais pas avant, donc ça, c'est pas possible comme discours.
Parce que ses parents, bon, ils étaient en Algérie, donc après ils ont immigré en France. Bon, ma belle-mère est restée en Algérie avec son mari. Bon, entre guillemets, elle a fait sa vie en Algérie. Ses parents, est-ce que c'est un argument, entre guillemets, si ses parents ont fait leur vie en France?
Non, le.
Alors, ça peut apporter quelque chose.
Voilà. Qu'est-ce qu'on entend par argument?
Est-ce que juridiquement, c'est voilà. un argument qui voilà. pèse
non.
ou pas,
M. Serra? C'est un petit plus pour établir le décorum, mais ce serait pas sérieux. Que de vous dire, écoutez, il y a cette histoire, et puis à partir du moment où on raconte ça, il n'y aura pas de difficulté pour elle, c'est faux. Mm-hmm. Ouais, c'est faux, donc les circonstances ont fait que madame a fait sa vie en Algérie, vous-même vous nous l'avez dit, on lui dit, bon, faut choisir la nationalité. Moi, je peux comprendre, encore une fois, la demande légitime de madame par rapport à maintenant toute la famille qui est au pays si elle a perdu son mari. Mais je peux comprendre aussi le raisonnement de l'administration qui peut sembler un raisonnement assez froid comme ça, implacable. Mais on peut le comprendre, c'est-à-dire que le truc étant de dire, mais écoutez, à l'époque, je vous ai demandé de choisir, vous avez choisi ça. Bon, on peut pas revenir comme ça sur la décision X années après. Donc, je peux comprendre aussi la politique d'un État, mais chaque État donc a ses règles qui font pas forcément plaisir à tout le monde. Et voilà, donc sur ce terrain-là, je crois que la porte est définitivement fermée. Maintenant, si vous me dites que l'essentiel de la famille, en tout cas ses enfants, sont sur le territoire français, l'un des enfants est de nationalité française, faudrait plutôt réfléchir sur ce fondement juridique. Mais récupérer la nationalité française, pardon pour l'expression, mais je crois que c'est plié.
D'accord, le choix a été fait, puis comme dirait,
bah oui. Évocable. Bah oui, et ce qu'on peut comprendre, encore une fois, vous voyez, des fois quand
Il y a une prescription ou pas en la matière?
C'est-à-dire
un délai de prescription. Il y a un moment où c'est plus possible.
Non. C'est-à-dire que vous pouvez, comme dit à l'autre, le raisonnement qui vient souvent, c'est quoi? C'est dire l'Algérie était sous domination française, donc à partir du moment où je suis né là-bas. De facto, je suis français. Alors, tout ça est vrai, ça n'existe pas. Ça existe, tout ça, il n'y a pas de difficulté. Mais, encore une fois, à partir du moment, et ça c'est arrivé, où les autorités françaises, à un moment, vous disent, il y a un choix à faire, vous voulez garder une nationalité française ou une nationalité algérienne, et vous dites, je veux être algérien, ce qu'on peut comprendre compte tenu du contexte de l'époque et tout, hein, voilà, on est dans un contexte particulier. Je trouve pas anormal que qu'ensuite X années après on se dise tiens c'était peut-être le mauvais choix. Ben peut-être, sauf que voilà, la vie c'est ça, c'est des choix. Alors parfois ils sont bons et parfois ils le sont moins, mais là en l'occurrence, ça me choque pas plus que ça. Maintenant, elle a une autre piste juridique.
Sachant qu'au départ quand elle est partie son premier voyage en Algérie, elle l'avait fait avec l'établissement d'une carte de séjour.
Ouais.
Et que par la suite, elle a fait de nombreux voyages par la suite, hein. Avec un visa.
Alors, touristique. On peut éventuellement essayer de récupérer cette carte de séjour donc qui a été qui a disparu comme ça voilà dans la nature. Donc elle peut éventuellement voir sur ce terrain-là. Maintenant, de par mon expérience entre guillemets, on va repartir à zéro, c'est-à-dire qu'ils vont tout réétudier. Est-ce qu'elle mérite au moment où on se parle, enfin est-ce qu'elle mérite, c'est pas un jugement d'être serein, hein, mais c'est l'administration. Voilà, est-ce que cette personne au moment où on se parle réunit les conditions pour éventuellement lui remettre une carte de séjour? Voilà, il n'y a pas d'automatisme. Il suffit pas de dire tiens, j'ai perdu, merci, j'aimerais une nouvelle carte. Non, on va reprendre 1001 critères.
D'accord, ok. Donc c'est pas gagné, mais faut se battre.
Alors c'est pas gagné, c'est une réalité, mais oui, bien sûr, faut se battre. Et puis le fait d'avoir encore une fois toute sa famille sur le territoire français, ses enfants et l'un des enfants de nationalité française, évidemment que ça aide.
Ça aide, parce que bon après j'avais entendu du fait que l'un des deux, soit le mari, soit la femme. Décédé, ça pouvait faciliter le fait de pouvoir, entre guillemets, revenir en France, elle était née en France.
Voilà, c'est même pas lié au fait, encore une fois, qu'elle soit née en France ou pas. Hein. C'est à partir du moment où on considère qu'on est totalement isolé au pays, puisque voilà, si son mari est parti, si les enfants sont sur le territoire, français, donc voilà, on se dit que. Désormais, les centres d'intérêt de madame ont changé de camp. C'est plus tellement l'Algérie, c'est un peu plus la France. Mais voilà, encore une fois, il n'y a pas d'automatisme. Donc c'est ce qu'on appelle le pouvoir discrétionnaire de l'administration. Et encore une fois, je le dis quasiment toutes les semaines, discrétionnaire en français normal, ça veut dire je fais ce que je veux.
Oh, bien sûr.
Voilà. Et si l'administration dit non, après, voilà, on a des voies de recours, évidemment, il y a des juridictions. Mais non, c'est pas gagné, mais c'est jouable.
C'est jouable. Ok. Bon, bah, écoutez, merci pour toutes vos informations.
Merci à vous pour votre appel.
Vers vous. Et puis, si je peux passer un petit coucou à tous les habitants de Givor, notamment la famille de Pousse, Tena, et j'en oublie, donc qu'il me pardonne. Et puis, merci de votre écoute, en tout cas.
Bon, et bien, en tout cas, Yacine, merci pour votre message qui est passé.
Merci.
Merci, Yacine, pour votre appel.
Portez-vous bien.
Au revoir. Alors, avec Maître Seram, vous pouvez apparaître comme parfois dur.
Non, mais c'est vrai. Alors, pas cet auditeur, mais l'auditrice précédente. C'est vrai que parfois, les réponses peuvent sembler dures. Mais c'est pas rendre service que de répondre ce que l'auditeur souhaiterait entendre. C'est pas le rendre service. D'abord, c'est l'induire en erreur. C'est lui donner beaucoup d'espoir. Alors, vous avez bien compris, c'est-à-dire je suis dur juridiquement parlant quand une procédure tient la route.
Vous êtes un bon gars.
Ah oui, mais bien sûr, je suis un mec sympa. Quand une procédure tient la route, je le dis. Quand elle ne tient pas la route, il faut le dire aussi.
Bien, spéciale dédicace à Nadia El Bouga qui vous écoute, Maître Seram, comme tous les vendus sur la route,
Bah ouais, bon, bah je l'embrasse, Nadia. Eh bah oui. Non, mais je l'aime beaucoup. Bon, bah, vraiment, et elle le sait.
Elle roule. Non, Imam Abdelali, non, pas vous. Elle a pas dit spéciale dédicace à Imam Abdelali.
Je peux pas embrasser Nadia El Bouga.
Je peux pas l'embrasser?
Non. C'est haram, les choses.
Voilà. Non, carrément.
Il y a l'imam qui arrive.
Direct, non, pas de bisous.
Bon, Nadia qui est sur la route aujourd'hui.
Par contre, tu peux pas me faire de bisous. Donc, déjà, elle, c'est encore pire.
Mais on peut pas, c'est à cause du Covid.
Voilà, c'est ça, le Covid. Ouais. C'est haram à cause du Covid.
Et puis, en deux, c'est parce que vous piquez.
Hein?
Et en deux, parce que vous piquez.
Parce qu'il pique, voilà. Non, mais t'as vu sa barbe?
C'est vrai. C'est un type
qui a une barbe de Père Noël qui dit que t'as vu sa barbe.
Non, mais c'est fou quand même, non? Il n'y a que des barbus ici, là. On est quoi? On est quatre. On est quatre, il n'y a que des grosses barbes.
Bien, Maître Seram, vous revenez vendredi. Avec beaucoup de plaisir. Et vous avez compris, l'imam Abdelali s'installe. Il sera là avec vous. C'est l'islam au présent. Hein, donc là aussi, vous pourrez intervenir et poser toutes vos questions à l'imam au standard d'ici quelques minutes. Hein, 01 53 48 3000.
Retrouvez AVS tous les jours de 9h à 10h et en podcast sur beurrefm.net et l'appli Beurre FM.